C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est désolant de voir à quel point les mots biodiversité, sol, santé environnementale ou climat sont absents des discours des candidats à l'élection présidentielle française et des préoccupations des commentateurs. Comme l'écrivait récemment Nicolas Hulot dans une tribune, dire que l'écologie est la grande absente serait un peu exagéré, dire qu'elle est enfin le noyau dur des débats et des programmes le serait tout autant. Et pourtant, notre modèle de développement s'essouffle, il faut restaurer les écosystèmes, accélérer la transition énergétique, oser questionner notre logique économique, bref, enfin parler de ce qui compte vraiment, et c'est justement le titre du livre de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour à vous.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier « Ce qui compte vraiment » aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes en duplex de Nantes grâce aux équipes techniques de France Bleu Loire-Océan. Alors, est-ce que vous avez l'espoir que votre livre déclenche un sursaut de prise de conscience ?
Ouh là là. Écoutez, non, j'en ai plutôt le rêve, mais l'espoir, pas vraiment. Je pense que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Et s'il suffisait d'un livre, j'en serais très heureux, mais je n'y crois guère.
Pourtant, le titre « Ce qui compte vraiment » prouve que vous avez quand même envie d'interpeller notamment les candidats à l'élection présidentielle et les électeurs, en le publiant maintenant.
Interpeller les candidats, non, je n'en suis plus tout à fait là. C'est-à-dire, le livre, si vous voulez, j'ai pensé à ce livre au tout début de l'automne, enfin à la fin de l'été 2016. La campagne commençait à peine, on voyait émerger la figure héroïque d'Emmanuel Macron, et vraiment je me suis dit qu'il n'était pas possible, sérieusement, qu'une campagne politique de cette importance-là se déroule sans qu'on aborde des questions essentielles de ce temps, qui sont, à mon avis, avant toute chose, toute autre chose, écologique. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait en parler de toute façon, et que certainement ça toucherait un certain nombre d'esprits et de cœurs, mais que de toute façon, les dés étaient lancés et cette campagne électorale est vraiment désolante, hein, totalement désolante. Je ne suis même pas d'accord avec l'extrait que vous avez lu de Nicolas Hulot, parce que l'écologie dont on parle dans les programmes politiques, dans certains programmes politiques de certains candidats, cette écologie-là ne me concerne pas vraiment. Enfin, et à mon sens, il est même abusif de parler d'écologie, parce que tout ça se déroule à l'échelle de la France, dans les frontières administratives et politiques de la France. Et je crois que n'importe qui connaît un petit peu le domaine de l'écologie scientifique, c'est très bien que ça n'a pas de sens. De parler d'écologie dans les frontières strictes de la France, c'est une ineptie, tout simplement.
Vous pensez par exemple au programme de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, qui ont annoncé quand même avoir mis l'écologie au cœur de leur programme.
Eh ben, c'est pas vrai, tout simplement. Je suis désolé de le dire. Oui, je ne conteste absolument pas du tout que Jean-Luc Mélenchon, qui s'y est pris de bonne heure par rapport aux autres, ou Benoît Hamon, ont en effet inscrit des mesures dites écologiques à leur programme, mais de quoi s'agit-il au juste ? Je maintiens qu'ils ne parlent que de la France et que le volant écologique de leur programme est certes intéressant, voire utile, hein, la sortie nucléaire, bien sûr, qui oserait cracher sur une mesure de cette sorte, en tout cas pas moi, mais néanmoins, si vous voulez, il reste dans le cadre, pour employer ce mot qui maintenant est convenu, le cadre paradigmatique de la croissance et du développement, fut-il modifié, mais dans tout état de cause, aucun d'entre eux ne met en cause, tout simplement, le modèle de développement, enfin le modèle de régression dans lequel nous sommes plongés depuis déjà si longtemps.
Alors pour vous, c'est une façon finalement de discréditer l'image de la France à l'international, comme vous l'expliquez hein, dans votre livre, dont je vais vous laisser lire un extrait.
Avec plaisir. Donc je vais vous lire un extrait dont le titre est « La mort sans gloire des intellectuels ». Voici le texte. Le bilan. Le vrai bilan est sans appel. Nous ne pouvons plus parler au peuple du Sud, à supposer toutefois que nous ayons pu le faire à d'autres moments, ce que je me garderais bien de penser. En tout cas, et alors que menace comme jamais la dislocation des sociétés de l'homme, le Nord reste sans voix. La retrouverait-il au reste qu'aucune oreille ne serait à portée pour l'entendre. Trop de crimes, trop d'égoïsme, trop d'égotisme. Le seul instant de véritable universalisme qui me vienne à l'esprit est celui de 1789. Certes, le Sud n'y tenait guère de place, mais tout de même, l'épopée des mots d'égalité et de fraternité semble bien avoir servi de passeport à une internationale de l'homme, des hommes. Depuis, rien, ou si peu. au moment même où les périls accumulés devraient mettre en mouvement des nuées, c'est l'indifférence, le mépris, parfois la haine du gueux et du basané qui dominent toutes les scènes de notre petit monde du Nord. Les intellectuels qui tiennent haut pourtant les oriflammes de la justice en France, de la Société des Amis des Noirs, au soutien matériel et concret aux indépendances des colonies, sont tout occupés à regarder mourir la France. On chercherait sans la trouver une envolée, une main tendue par-dessus les tranchées du chaos mondial. À mes contemporains qui se moquent de la coopération, de la solidarité, de la compassion, de l'empathie et qui ignorent tout du mot générosité, je dis sans hésiter que nul ne sera épargné. En 1914, franchir la frontière espagnole et gagner Barcelone si proche vous mettait à l'abri de la fureur et des cadavres. Même en 1939, malgré l'horreur qui déferlait sur l'Europe en sang, il restait quantité de beaux pays où tout semblait en place pour l'éternité. Cette fois, il n'y a plus d'ailleurs. Je crois que je peux passer à mon idée force, qui ne paraîtra imbécile ou en tout cas hors de portée qu'à ceux qui n'ont pas d'idée. La restauration écologique du monde.
Et oui, parce que comme vous le disiez juste avant, l'enjeu est mondial et il ne faut pas raisonner à l'échelle de son petit pays, ça n'a pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens. Et puis, si vous voulez, il y a eu tant et tant d'analyses, vous les connaissez comme moi, il y a eu tant et tant de livres, tant et tant de réunions, de conférences, de colloques, de prises de position, de lyrisme parfois, y compris chez certains politiques. Tout est connu, si vous voulez. Je veux dire, je ne prétends pas apporter une connaissance nouvelle de ces phénomènes, mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'on assiste déjà à des phénomènes de dislocation. Peut-être qu'on est incapable de le voir, peut-être qu'on n'a pas la vision qu'il faudrait, le regard qui serait nécessaire. En tout cas, il y a déjà des phénomènes de dislocation. Vous comprenez bien, ce sont des chiffres qui sont certains, qui sont repris par toutes les agences officielles de l'ONU, entre autres. Il y a déjà des dizaines de millions de réfugiés écologiques sur la planète. Alors même que le dérèglement climatique est loin d'avoir évidemment provoqué toutes les catastrophes prévisibles liées à son développement. En tout cas, ça n'est rien. Ça n'est strictement rien à côté de ce qui se prépare. Je cite trois études concordantes parues dans de très grandes revues scientifiques de la planète, dont The Lancet. Ces études concordantes disent quelque chose d'assez incroyable, assez insupportable. Une bande de terre qui va du Maroc jusqu'à l'Iran, où vivent aujourd'hui 550 millions d'humains, cette bande de terre, à cause du dérèglement climatique en cours, est en train de devenir inhabitable. 550 millions de gens à nos portes qui vivent sur un territoire où la température diurne va monter probablement à 50 degrés avant peut-être, pourquoi pas 60. Où vont aller, selon vous, les 550 millions d'habitants qui vont progressivement devoir quitter leur terre? Est-ce que vous croyez qu'ils vont se dissoudre dans l'atmosphère? Non. Ils iront à nos portes et c'est tout à fait normal, je ferai la même chose qu'eux. Seulement, à ce moment-là, à ce moment de l'histoire tragique de l'humanité, que va-t-il se passer? Vous comprenez bien que les discours humanistes de certains aujourd'hui ne tiendront pas. Il est absolument clair que les opinions d'Europe vont exiger des mesures sur lesquelles je préfère ne pas m'attarder, mais qui seront certainement très loin des visées généreuses et des discours humanistes.
Donc, on peut voilà s'y attendre. Alors vous parlez des conséquences des dérèglements climatiques, mais il y a des conséquences qui sont aussi déjà immédiates, dont vous parlez dans votre livre et dont on parle souvent dans cette émission. Ce sont par exemple les conséquences des pollutions, les pollutions des rivières qui touchent tous les pays et qui poussent aussi des gens à se déplacer parce que quand on ne peut plus boire, on ne peut plus cultiver, mais on part ailleurs. Et en Indonésie, le fleuve Citarum qui s'étend sur l'île de Java sur 300 km est l'un des plus pollués du monde, comme le prouve ce reportage de Vincent Sourieux.
Scène de la vie ordinaire dans la province de Majalaya, quatre femmes en pleine vaisselle sur la place du village, entourées d'enfants qui jouent. Le détail qui compte, ce sont ces plaques blanches sur les bras de Nour, une maladie de peau inconnue jusque-là qui ronge depuis 6 mois le corps de cette villageoise d'une quarantaine d'années.
C'est à cause de l'eau contaminée, elle vient de la rivière. Il n'y en a pas d'autre de toute façon, alors comment on pourrait faire autrement? Elle arrive directement ici et on s'en sert pour se laver. Évidemment, on a peur que ça se transmette à nos enfants, ça vient des usines. C'est simple, quand j'ai eu mes premières crises de démangeaison, c'était toujours après m'être lavé ici.
La source de la maladie, c'est la rivière Chitarum, qui coule quelques dizaines de mètres plus bas, couleur indistincte, odeur intenable, un ramassis d'ordures, de sacs plastiques et de déchets ménagers en tout genre. Mais ce cours d'eau, ce n'est pas qu'une immense poubelle. Pour les habitants qui vivent le long du rivage, c'est aussi l'endroit où les centaines d'industries textiles de la région déversent leurs eaux usées, remplies de détergents et de produits chimiques. Windia Wardani du Bureau régional pour l'environnement, chargé de faire la chasse aux pollueurs.
Il y a des métaux lourds dans l'eau et dans les sédiments, probablement à cause des industries, puisqu'on ne trouve pas de métaux lourds dans les déchets domestiques. Nous demandons à ces industries de mettre en œuvre des processus de retraitement qui soient conformes à la législation et d'arrêter de déverser leurs eaux usées tant qu'elles ne sont pas aux normes. Nous faisons des contrôles intensifs et je crois que petit à petit, les industriels se conforment aux règles établies. Ils les mettent en œuvre, mais peut-être pas tous les jours. Certains industriels se plaignent que cela représente un coût important. Donc si nous ne contrôlons pas, ils continuent d'évacuer leurs déchets directement dans l'eau.
Un reportage de Vincent Souriot et le fleuve Chitarum n'est qu'un exemple parmi d'autres. Fabrice Nicolino, dans votre livre, vous expliquez par exemple que 27 000 rivières ont disparu en Chine en 20 ans.
Oui, c'est incroyable. À double titre, bon, la nouvelle elle-même est effarante, mais elle n'a pas été reprise ou pratiquement pas dans les journaux français, ce qui me paraît aussi une faute, à mon sens, impardonnable. En tout cas, de quoi s'agit-il? Le gouvernement chinois a envoyé 800 000 employés pour recenser, pour faire une cartographie complète des cours d'eau de la Chine. Le dernier recensement datait en effet d'une vingtaine d'années, et le recensement qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminé il y a quelques mois, signale la disparition pure et simple de 27 000 rivières, ce qui paraît incroyable, puisque ça change la carte physique, les caractéristiques physiques de ce grand pays, la Chine.
Et à quoi sont dues ces disparitions?
Alors, bien sûr, il y a contestation. Le gouvernement chinois qui a intérêt, faut dire la vérité, à mentir, prétend que le recensement précédent était sans doute imparfait, etc. Mais on a un formidable connaisseur du dossier, un Chinois qui s'appelle Matt June, qui a écrit un livre admirable en 1999, qui a été traduit aux États-Unis, mais qui malheureusement ne l'a pas été en France, où il décrit l'état réel des rivières et du système hydrographique en Chine. Et c'est... Il n'y a pas de mots humains pour décrire ce qui se passe en Chine, puisque on pompe d'une manière délirante dans toutes les nappes phréatiques et dans toutes les rivières existantes pour faire vivre quoi? L'agriculture, les villes, l'industrie. La Chine est très proche d'un collapsus écologique, d'une sorte de crack écologique au sens où on parle de crack économique, mais à une échelle bien pire au fond. Et il y a donc surexploitation telle des rivières et des fleuves que tout simplement les rivières disparaissent. Elles ne coulent plus. Je crois me souvenir, je crois que c'est le fleuve jaune qui est dans ce cas-là, qui est un fleuve mythologique dans l'histoire chinoise, et il ne coule plus jusqu'à la mer parce qu'il est trop utilisé, il est trop surexploité. Vous voyez, la situation en est exactement à ce point. Nous, en Europe, en France notamment, on n'a pas du tout la perception de ça. Enfin, on vit au fond les derniers jours de Pompéi. On vit dans l'abondance, on vit dans un système qui, à l'échelle planétaire, n'a plus aucun sens. Et les problèmes, les vrais problèmes, ceux qui conditionnent la paix et la sécurité de tous sur cette Terre, ils sont fondamentalement aujourd'hui écologiques. Et c'est dramatique de ne pas en parler et surtout de ne pas agir. Car on peut agir.
Oui, et en France aussi, hein, les cours d'eau souffrent et aucun candidat à l'élection présidentielle n'en parle.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Donner un sens à sa vie, c'est votre objectif justement, Ariane Vitalis, bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez que 24 ans, vous êtes présentée comme candidate à l'élection présidentielle sur le site laprimaire.org. Alors bon, ce n'est pas vous qui avez gagné, c'est Charlotte Marchandise, une femme de 42 ans avec un programme qu'elle résume ainsi, un projet de société humaniste axé sur le renouveau démocratique et l'éthique, ça fait rêver. Alors je vous laisse découvrir le programme sur le site, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter, Ariane? C'est tout ce qu'on vient de dire avec Fabrice Nicolino, c'est parce que vous aviez envie de faire émerger même si c'est un peu naïf peut-être, mais d'autres types de candidatures ?
Oui, c'est ça. Je pense que j'ai écrit un livre il y a quelques temps qui s'appelle « Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience », paru aux éditions Yves Michel. J'ai vraiment pu, je dirais, approfondir toutes ces questions-là autour de l'écologie, de l'environnement, des questions autour du travail, de pas mal de thématiques, ces questionnements autour d'une nouvelle conscience. Et je dirais que je me suis sentie, on va dire, légitime, entre guillemets, de porter une voix sur la primaire.org parce que j'avais déjà, on va dire, intellectualisé toutes ces questions-là autour d'un nouveau monde.
Alors, comme vous avez été libérée de vos obligations de candidate, puisque vous n'avez pas été retenue finalement, vous avez lancé un nouveau projet, un projet intitulé « Un monde réenchanté ». Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, Un Monde Réenchanté, c'est une plateforme internationale d'engagement entre des mécènes, des volontaires et des entrepreneurs sociaux. Donc, avec nos équipes d'explorateurs, on parcourt le monde pour rencontrer des entrepreneurs sociaux qui ont mis en place une initiative positive qui a fait ses preuves.
Par exemple ?
Par exemple, on les appelle nos héros. Alors, on a par exemple Lorenza Garcia, qui a une association qui s'appelle Association Navarro France, qui développe des programmes sur l'agroécologie chez les Indiens Navarro. Un autre exemple, on a un projet qui s'appelle Water Planet, qui questionne un petit peu les thérapies alternatives. Voilà, donc c'est des projets qui sont très variés, je dirais.
Et l'objectif, c'est d'emmener donc une cinquantaine de jeunes l'été prochain à la découverte de ceux que vous appelez les héros, tout en coachant ces jeunes pour qu'eux-mêmes apprennent sur le terrain et reviennent avec l'envie de créer quelque chose.
C'est ça, on propose des voyages apprenants qui mêle à la fois le volontariat, c'est-à-dire que des petits groupes de 10 jeunes environ sont en immersion terrain dans ces projets d'économie sociale et solidaire. Ils vont découvrir ce qu'est l'ESS, être volontaires sur le projet de leur choix, et en même temps, ils sont accompagnés par un coach qui va les accompagner pour les mener à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde, révéler son potentiel, voilà, des choses comme ça, pour que ces jeunes-là, à leur retour, ils puissent en fait trouver leur voie et briller en fait. Notre objectif, c'est vraiment que ces jeunes, ils puissent trouver leur place dans le monde du travail au service du bien commun et vraiment se révéler dans leur être.
Et je précise que ce n'est pas payant. Hein. En fait, vous êtes en train de chercher là des partenaires. Vous avez presque bouclé, mais ça serait bien d'en avoir encore quelques autres. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Internet parce que le but, c'est que ces jeunes ne payent pas d'eux-mêmes et que ce soit quasiment gratuit pour eux.
Il y a une petite contribution financière, mais c'est vraiment très peu. Et l'idée, c'est que ça soit le plus accessible possible à tous.
Rapidement, le financement participatif, c'est sur quel site ?
Sur Hello Asso. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur unmondereenchanté.org.
Merci beaucoup, Fabrice Nicolino. Que pensez-vous de cette idée ? Elle va dans le sens de ce que vous appelez de vos voeux dans votre livre, hein, bâtir des alliances autour de valeurs, identifier des accélérateurs de conscience.
Que des jeunes, comme votre interlocutrice, se lancent dans cette bagarre, chacun à sa manière. Je ferai pas nécessairement la même chose, mais ce qui est absolument fabuleux, c'est d'aller dans la même direction, chacun à son pas, chacun à sa façon. Dans mon livre, par exemple, je parle d'une alliance possible, très éventuelle encore, avec les catholiques, avec l'univers catholique.
Du pape François, notamment.
Oui. On a quand même la chance de cohabiter sur cette terre en ce moment avec un pape qui a fait une encyclique consacrée exclusivement à la crise écologique planétaire.
Je tiens à préciser que dans votre livre, vous dites que vous n'êtes pas catholique et que
non,
on ne peut pas vous accuser de prosélytisme. Hein.
Non, pas du tout, je ne suis pas du tout catholique. Mais vous parlez d'accélérateur de conscience, la jeunesse qui s'engage, des catholiques qui s'engagent, que sais-je encore, c'est absolument essentiel. Moi, je n'ai plus l'espoir ou l'illusion qui était celle de ma jeunesse, qu'on peut changer rapidement l'esprit des gens et les mettre en mouvement. Non, je crois qu'il faut se mettre en mouvement, tel qu'on est, avec les idées qu'on a dans la tête, et essayer de converger vers un but commun. C'est ça mon idée. Et accélérateur de conscience, c'est des jeunes qui s'engagent, qui vont visiter des héros aux quatre coins de la Terre et qui en viennent fortifier dans l'espoir de servir une cause supérieure à eux-mêmes, je trouve ça extraordinaire. C'est évident que ça va dans le sens que je souhaite, évident.
Restez avec nous, juste après le flash d'info, nous parlerons d'un autre sujet essentiel et en pleine révolution, et ça tombe bien parce que là aussi il y a urgence, l'agriculture. À tout de suite.
International.